Merci Estelle Schmitt, on vous retrouve à midi pour d'autres informations. Général, soyez les bienvenus avec Leïla Kaddou, Boudali.
Bonjour à tous.
Daniel Morin, Albert Alou, Alexis Le Rossignol, Tanguy Bassureau qui sera là.
Bonjour.
Pour nos rendez-vous habituels. Frédéric Sinis. Tu mérites tellement, on te voit plus. Écoute. On te voit plus.
Moi, je le reconnais plus.
C'est une bande originale spéciale. Ce matin, nous avons voulu rendre hommage à cet immense comédien, ses yeux, évidemment, qui nous avaient séduit, cette voix de velours que nous allons réécouter tout au long de cette émission. Il nous a quitté mardi dernier, peu avant son 94e anniversaire. C'est aujourd'hui à 15h qu'aura lieu à Paris. La cérémonie pour son dernier voyage. Il était venu nous voir le 14 janvier 2016 pour nous parler d'un texte autobiographique qui s'appelait Pièce d'identité, qu'il jouait sur scène. Vous reconnaîtrez autour de lui les voix de Noémie Delattre ou d'Éric Nolot. Et à l'époque, nous avions commencé aussi avec cet interro. Question sur la carrière de Jean-Pierre autour de cette table. Combien de fois, à votre avis, a-t-il incarné Cyrano de Bergerac?
400 plus.
Exactement.
Je les ai toutes vues.
Plus de 400 fois.
Oui, mais vous le savez mieux que moi, car je n'ai pas compté. Mais enfin, je pense que c'était à peu près dans l'ordre. Oui.
Ah, mais c'est incroyable.
Enfin, plusieurs années, tout de même.
Oui, pas un souvenir, pas le même soir.
Soir.
Mais très, très, très franchement, sans jouer la mauvaise langue, c'est pas lassant de le faire autant de fois.
Non, parce que ce qui était difficile, c'est que la plupart du temps, on reprenait Cyrano vers le mois de mai. Quand les recettes commencent à dégringoler, alors hop, on affichait Cyrano, ça repartait à fond.
D'accord.
Bon, c'était très dur parce qu'il faisait très chaud. Alors c'était extrêmement désagréable parce que mon nez se décollait.
Le nez se décollait, c'est ce que vous racontez dans la pièce. Vous, alors il y a un moment, vous avez une petite bouteille de colle, colle de maquillage, parce qu'un jour...
Dans ma poche,
voilà,
de pantalon.
Votre nez avait commencé à se décoller.
Pas qu'il avait commencé à se décoller. C'est d'ailleurs extraordinaire, c'est le moment de la tirade des nez. Sur le sens que je me l'amputasse, paf, sur un putasse, je fais le geste.
Et vous l'amputez vraiment.
D'accord. Oui. Heureusement, il est revenu en place. Mais à partir de là, j'ai gardé un petit flacon de vernicole dans la poche. De mon pantalon. Puis un jour, j'avais mal refermé sans doute le petit flacon de vernicole.
C'est ce que vous racontez.
Ça a atteint les parties les plus intimes de mon individu. C'était extrêmement je vous jure que les rappels du 5e acte, je les ai écourtés parce que j'avais l'air de sentir que ça collait de partout.
Mais ça fait dangereux,
non? Désagréable, non.
C'est ce qui s'appelle un rôle qui colle à la peau.
Si on m'avait tiré dessus d'un seul coup,
ça aurait été extrêmement
désagréable. Le rôle qui colle à la peau.
C'est le rôle qui colle à la peau. Mais elle est pas loin, elle est Jean-Pierre.
Écoutez, je l'ai fait le jeu de mots, je l'ai fait en m'excusant d'ailleurs de cette facilité.
Oui, mais je la trouve
mignonne. Par contre, Léa ne s'excuse pas.
Non, moi je ne m'excuse pas. Non, je cite Jean-Pierre, ça va.
C'est bien, c'est bien. Tu aurais pu dire c'est une paire de cols, mais c'était mieux.
C'est Jean-Pierre quand même aujourd'hui.
Et Cyrano, 400 représentations, mais combien de mises en scène différentes?
La seule, c'était Jacques Charon qui avait mis en scène.
Ah, uniquement, d'accord.
C'était une seule, oui, c'était la même mise en scène.
D'accord.
J'ai commencé ça en 64. Et j'ai terminé en 72. Hein. C'était tout de même réparti sur 8 années de... 8... Que je ne me trompe pas, 74.
Oui, 72,
ça fait 8 ans, oui, c'est ça.
Et vous avez toujours le texte en tête, j'imagine. Et vous avez toujours le texte en tête, j'imagine.
Oui, honnêtement, oui.
Oui, après 400 fois, je pense qu'on on l'a
ça
bien.
Reste. Ça finit par rentrer, oui. Il y a un moment où ça rentre.
Alors, c'est le désespoir.
Toujours... Ah, quelqu'un qui veut rentrer, justement. Qui est toujours en forme, Jean-Pierre. Je sais pas c'est quoi ce bruit. Ah oui, si j'ai compris. C'est moi qui ai... D'accord, c'est ma faute, pardon.
Non,
c'est moi.
Comment tu fais ça?
Je sais pas.
Tu fais ça avec ton nez?
Ah, là, je vais beaucoup mieux.
En fait, Nagui est tellement autonome, je sais pas ce qu'on fait là.
Quelles ont été dans la saine vie de Jean-Pierre, ses recettes pour être en forme olympique tout au long de sa vie?
Bah, la picole.
Le travail.
Évidemment.
Le travail et l'amour, non?
Et le vernicole.
Ah, l'amour, c'est beau, mais ça fatigue tout de même.
Ah oui, c'est épuisant.
Le travail. Non,
mais
sport,
je parle vraiment d'hygiène de vie.
Ah,
se lever tôt.
Le vin, il n'y a pas un rapport.
Alors,
il y a du
sport, oui.
Quel courir, sport? Courir.
Du yoga. Alors,
natation.
Oui, absolument.
Vous nagez.
Et en hygiène de vie?
Un verre de vin par jour?
Ça, je sais pas, vous avez un verre de vin par jour, oui?
Deux verres de vin par jour?
Oui, deux, trois,
mais. Ah,
d'accord. Quand même deux repas par jour.
C'est vrai.
Bah, ouais.
Et un petit déjeuner.
Non, pas un petit ballon.
Pas encore.
Des jus de fruits. Des jus de légumes.
Non, hygiène de vie, basique.
Le dormir, là.
Non, mais regarde.
Maigrir.
J'imite Jean-Pierre. Donc, sport, on en a parlé.
Ouais.
Non, mais les deux autres trucs où je vous énerve avec ça.
La nourriture.
La cigarette?
Voilà, donc.
Ne pas fumer. Pas de cigarette, oui.
Voilà.
Bien, c'est pas...
Ah, oui. Voilà. Pas de drogue, pas de tabac.
Non.
Ce qui est un peu pareil d'ailleurs.
Oui.
Et du sport.
Oh, le raccourci.
La natation uniquement. Un peu de course à pied quand même, si. Que j'ai arrêté il y a une dizaine d'années. Enfin, je faisais de la course à pied quand même beaucoup.
Est-ce que vous avez toujours eu cette hygiène de vie ou est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez dit pour rester en forme, je vais arrêter de fumer ou.
Les rôles importants que j'ai joués aux Français vous contraignent.
À cette hygiène.
Oui, oui, oui. Il faut être en forme, quoi, sur des rôles qui exigent physiquement.
Oui, mais le métier, et puis en plus, il y a eu toute une génération d'acteurs et d'actrices que vous avez fréquentés, ou même des missions de radio ou de télé où tout le monde y allait de sa clope et tout le monde fumait, c'était pas interdit.
Il y avait non, des. C'était pas interdit, mais voilà. C'était pas recommandé.
C'était pas recommandé, je vous l'accorde.
Comme Nagui reste à la clope en évoquant le milieu du théâtre et de la télévision, parfois.
Non, sur les plateaux. T'as vu des gens se droguer à la télé?
Bah oui. C'est arrivé sur scène, je sais pas s'il y a des gens qui. Est-ce que c'est compatible?
La voix est un muscle.
Ouais.
Et si vous fumez, si vous. Le souffle.
Non, mais Cyrano sur cocaïne, par exemple. Est-ce que, Cyrano de Bergerac sur cocaïne, est-ce que c'est recommandé?
C'est pas recommandé.
Voilà, c'est ça.
En plus, avec le pif.
C'est dommage,
en
fait.
On est connaisseurs.
Eh oui.
Vous savez, les grands rôles comme ça sont des épreuves sportives, c'est un 1500 mètres.
Ouais,
si vous fumez votre 1500 mètres, vous le faites en 5 minutes 15, alors que normalement, il faut le faire en 4 minutes, en 4 minutes 12 ou un truc comme ça.
On voit que vous aimez le sport. Ouais. Quelle est la technique de Jean-Pierre pour apprendre ses textes? Et justement, technique qu'il utilise peut-être en ce moment.
Il les enregistre et les écoute la nuit.
Il répète 3 heures par jour pendant 2 mois.
Alors non, c'est plutôt un moyen mémotechnique.
Ah oui, il se souvient de la première syllabe de chaque premier vers.
C'est vrai, oui.
Et quand ça peut faire un mot, c'est encore plus.
Hein. J'ai deux par pour, ça fait quelque chose, si vous voulez.
J'ai deux par pour.
Oui, j'ai commencé à faire ça. Bon, je peux pas vous dire le moyen mnémotechnique exact que j'ai employé parce que il y a tout même très longtemps que j'ai joué ces rôles-là. Je me souviens plus. Mais c'est vrai que prendre la première syllabe
de chaque ligne,
ça vous aide à.
À démarrer.
Ça vous donne une marche d'escalier. Voilà.
Et Jade Parcours, c'est quelle tirade?
Je
ne
m'en rappelle plus.
Ah oui, d'accord.
Ah bah ça marche vachement bien.
Vous dites que c'est pas efficace,
ça marche pas. Hein.
Donc ça s'appelle Pièce d'identité, extrait d'un livre que vous aviez commis. Ce livre avait un titre qui n'avait pas plu à tout le monde dans votre entourage.
C'est-à-dire que les gens de théâtre préféraient. Mais j'avais deux titres. J'avais Et vous jouez toujours? Qui est le titre du bouquin d'ailleurs. Et je crois, non, c'est Vous jouez encore.
Encore.
Oui. Et Vous jouez encore.
Oui, c'est le stade d'après.
Je trouvais ça très drôle. Et au théâtre, on dit, oh non, ça fait pas sérieux. Alors, Pièce d'identité, c'est mieux. Alors, bon, j'ai appelé ça Pièce d'identité.
Alors,
mais c'est le même tonneau. Hein.
Voilà. Donc, vous dites que dans votre carrière, il y a plusieurs réflexions. C'est, vous ouvrez la pièce comme ça.
Ma vie professionnelle a commencé, ça a l'air d'une blague, mais j'avais 4 ans. Et je faisais partie de l'école Saint-Charles à M, un petit village près de Lille.
Joli nom.
Oui, M, c'est tout un programme, hein. H-E-M, enfin bon, bref. Et j'étais sur scène à 4 ans et j'avais une réplique à dire que je n'ai pas dite tellement je trouvais le spectacle admirable.
C'était comme les rats,
comme
c'est
les
ça
rats.
Comme les rats, oui.
Comme les
alors
rats.
Mon père, mon grand-père, mon grand-frère, ma mère, mes confrères sur scène me soufflaient comme les rats, comme les rats, comme les rats. J'ai fini par dire comme les rats avec un sourire délicieux d'ailleurs.
Ça va, oui.
Non, je peux le
qualifier. Auto-satisfaction.
Je qualifie encore de délicieux.
Mais que vous en sentiez.
Mais imagine.
Et voilà, c'est parti comme ça. J'étais heureux sur scène à 4 ans. Et après, mon père s'en était peut-être rendu compte, car il me faisait chanter ma petite chanson des réunions de famille devant ses collègues de bureau le samedi à midi.
Alors tout ça, c'est toute la pièce. Hein. C'est ça qui est formidable.
C'est la pièce et c'est vous racontez.
Oui, non, parce que vous racontez ça sur scène dans votre one man show, dans cette situation de se raconter. Et vous partez en effet du plus jeune âge sur scène jusqu'à citer tous les extraits qui ont été les monologues qui ont été les plus importants pour vous. Et on se retrouve dans une situation où vous créez votre propre best of pour reprendre une expression très à la mode, les meilleurs
florilège.
Moments. Florilège, voilà, restons français, tu as raison. Les meilleurs moments de votre carrière que vous racontez.
Car je me rends compte, si vous voulez, avec l'âge et le temps, que finalement, jouer la comédie, à travers tous les personnages qu'on a rencontrés, soit au théâtre, soit au cinéma, soit à la télévision, etc., c'est une longue conversation qu'on a avec un public. Parce que les gens vous reconnaissent et vous situent à travers les rôles que vous avez joués, ils ne connaissent pas votre vie intime, mais ils vous situent, et c'est une, on peut pas dire autre chose, c'est une longue conversation qui, pour moi, dure depuis, non pas l'âge de 4 ans, mais enfin un peu plus tard quand même, mais c'est 74 ans d'exercice professionnel qui font que cette conversation n'a jamais cessé d'être avec le public. Et je n'ai jamais cherché à aller vers le public d'une façon particulière, mais c'est ce que je retiens. Et brusquement, si vous voulez, à la dernière d'une pièce, et la dernière, je vais la connaître, la dernière d'une pièce. Je l'ai pas encore, j'ai connu des dernières, mais je vais connaître la dernière. Brusquement, c'est le silence qui s'empare de vous.
C'est ce que vous dites dans Pièce d'identité, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que le silence.
Pour un acteur, brusquement, pourquoi est-ce qu'on a encore envie de jouer? Parce qu'on a envie de poursuivre cette conversation, on a envie d'être d'abord, et on a envie de poursuivre cette conversation avec le public. Comme le gosse à qui on dit « allez, va te coucher », qui n'a pas envie d'aller se coucher parce qu'il s'amuse bien avec ses jouets. C'est un petit peu la même chose. Il y a quelque chose d'infantile chez les acteurs, sinon ils ne joueraient pas. Ils jouent comme l'enfant, quoi. Et c'est ça qui est le plus dur à accepter, c'est de se dire... Vous savez, les gens vous disent « vous voulez mourir en scène ». Non, on ne veut pas mourir en scène, ça n'a aucun rapport. Par contre, jouer une scène de mort en scène, ça, c'était pas tant, c'est succulent. Il n'y a rien de plus facile que de jouer une scène de mort. Parce que immédiatement, vous avez l'audience, vous avez l'attention des gens immédiatement offerte. Parce que je crois vraiment que je me demande s'ils ne pensent pas à la sienne, à la leur, plus exactement, quand vous jouez une scène de mort. Il n'y a plus un siège qui craque, il n'y a plus un téléphone portable qui sonne, il n'y a plus une toux. Il y a comme si les gens se disaient, pensez à la leur en la voyant jouer par quelqu'un. Et ça, c'est, mais, il y a un moment donné où ça s'arrête vraiment. Et c'est notre mort à nous. Et ça, c'est extrêmement désagréable. C'est pas pour mourir en scène, c'est parce que la conversation est interrompue définitivement.
Oh là là,
ouais. C'est ça,
je l'ai vu pendant deux secondes, Nagui a pensé à sa mort. Il était là, il bougeait plus.
Vous avez une conversation avec le public, ouais. Constante à travers vos émissions, quelle que soit l'émission d'ailleurs. On va s'intéresser à ce que fait Nagui. Bon, ben, et puis tout d'un coup, pour des raisons X ou Y, que je vous souhaite les plus tardives possibles,
vous
il y a un
accent
ou boum. Hein. Alors,
non,
c'est pas gay
ça.
Tout ça.
Non, c'est pas gay, mais vous l'évoquez dans cette pièce.
Oui, bien sûr.
Vous l'évoquez
Parce que la Fontaine a tout dit. Hein. Je voudrais qu'à cet âge, dit-il, parlant d'un centenaire, on sortît de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et confie son paquet. Car de combien peut-on retarder le voyage? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais on peut tout de même répondre en disant, oui, en attendant, bien sûr, vieillir c'est emmerdant, mais quand on sait vraiment que c'est ça ou la mort, on trouve ça épatant.
C'est vrai. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Jean-Pierre qui nous a malheureusement quitté mardi dernier. Je rappelle que c'est cet après-midi à 15h qu'aura lieu la cérémonie pour son dernier voyage. Mais d'abord, voici le Holidays. qu'on a déjà. C'était Holidays.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
On a tous en nous quelque chose de Jean-Pia, c'est-à-dire que vous avez, et vous le savez, ça a extrêmement bien fonctionné auprès de la gente féminine, et j'en suis ravi pour vous, mais moi je suis toujours tombé sous le charme de votre classe, de votre élégance, de votre voix, de vos propos, de ce sourire magique que vous avez. D'ailleurs, vous l'évoquez dans la pièce, la manière dont aussi la vue peut baisser et où les rides autour des yeux ne sont plus que pour charmer, mais aussi pour arriver à lire, ça peut aider.
Mettre des lunettes, quoi.
C'est ça. Mais on a tous en nous quelque chose de Jean-Pierre. Je dis ça, Eric, parce que vous, c'est un Jean-Pierre bien particulier qui résonne dans votre mémoire.
Oui, je commence par là. Ça fera l'objet de ma première question. C'est pas mon cas, et pas isolé. Quand je pense à vous, je pense au Roi Maudit que j'ai vu quand j'étais tout gamin.
Évidemment.
On peut pas se représenter l'effet que ça fait. Moi, j'étais vraiment tout gamin. Je regardais ça de manière passionnée. Je me suis précipité sur une histoire de France ensuite, et j'ai lu ça à la suite. Mais est-ce que vous en concevez, alors évidemment de la fierté, mais pas un peu d'irritation? Je vais faire un parallèle avec, vous savez, Diana Rigg, qui jouait dans Chapeau melon et bottes de cuir. Tout le monde lui parle de ça. Or, elle a fait une carrière sur scène phénoménale. Elle a joué Shakespeare et tout. Est-ce que vous êtes à la fois flatté, j'en suis certain, mais un peu énervé que parfois on vous réduise à ça, au Roi Maudit?
Je peux vous jurer que non. Parce que ce qui est intéressant, qui est important dans une carrière d'acteur, c'est qu'à un moment donné, il y a un coup de lumière, un coup de projecteur sur quelque chose. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ça à cause des Rois Maudits. Je ne sais pas pourquoi, je suis le premier surpris de moi. Parce que j'ai trouvé que les Rois Maudits étaient interprétés admirablement par un ensemble d'acteurs de grande qualité,
c'est
etc.
Vrai. Par ailleurs, c'est
et
vrai.
Que les scénarios étaient très étudiés. C'est Marcel Julien qui avait tout de même travaillé autour de tout ça. C'était très réussi. Donc, la réussite, on la devait aux auteurs, au moins autant qu'au metteur en scène, qui était Claude Barma, qui dirigeait ça avec une espèce de majesté tout à fait épatante et simple. Enfin,
non. Le papa de Catherine Barma,
Catherine Barma. Et Claude était un type seigneurial, quoi. Un jour, on lui a dit, écoutez, non, il demandait une heure de plus de là-haut. On lui a fait comprendre que les services commerciaux ne pouvaient pas. Bon, ben, c'est parfait, on arrête tout, et hop, boum. Alors le type est arrivé, l'homme de l'administration est arrivé, on a dit, écoutez, il dit, non, c'est un malentendu. Ben non, vous n'allez pas une heure, moi j'arrête les frais. Non, mais ça va, c'est bon. Ça s'est arrangé. Il y avait l'autorité de Barma.
C'était le bon temps. Oui. De pouvoir faire ça, c'est aujourd'hui,
on s'arrête.
C'était le bon temps. Oui, on travaillait vraiment au petit fer à friser, quoi, d'une façon. On répétait pendant 8 à 15 jours, avec dans les derniers jours avec les caméramans, mais on répétait comme une pièce de théâtre. Et on savait où seraient les caméras, et les caméras savaient où on serait nous aussi. C'était déjà très précisé. Donc, si vous voulez, il y avait un travail d'ensemble très remarquable. On croyait à ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on avait l'impression de faire quelque chose d'important. Parler d'une histoire de France, ou de la France, si vous voulez, qui n'était pas très connue. Le Moyen-Âge n'était pas très connu à cette époque-là. Je vous parle de ça il y a quand même plus de 30 ans. C'était pas très connu. Donc, c'était une relation immédiate. Le sentiment pour les gens de se cultiver agréablement grâce à la télévision, etc.
Et j'ai une question sur la vieillesse pour vous aussi. Parce que j'ai connu quelqu'un dans votre genre à la fac. C'était un de mes profs d'université qui rentrait dans l'amphithéâtre en s'appuyant sur sa canne. Et à ce moment-là, toutes les étudiantes cessaient instantanément de nous calculer pour le couver de regards mi-maternel, mi-érotique. Donc, il y a quelques avantages à la vieillesse et à la mise en scène des vieux messieurs avec leurs cannes. Et moi, je voudrais savoir si...
Je ne suis pas encore assez baladé pour vous. Je vais y penser.
D'accord, mais on connaît les désavantages de la vieillesse, mais est-ce qu'il y a des avantages dans la vieillesse pour un acteur et pour un homme?
Incontestablement.
Lesquels?
Un respect. Une forme d'intérêt autre que le JPP, quoi. C'est... Non, il y a vraiment, oui, je peux pas vous dire autre chose. Il y a un respect, il y a une attente, il y a une.
J'ai pas compris
le observation, JPP. Quoi.
Le JPP, j'ai pas compris.
Non, je veux dire le jeu un peu plus putain, si vous voulez.
Le jeu un peu putain, le JPP. Oui, moi, j'avais Jean-Pierre Papin, vous voyez, dans JPP.
Moi aussi, d'ailleurs.
Oui, mais vous êtes fan de foot,
évidemment. Football.
Moi, j'ai pas percuté.
Pardon, je vous ai interrompu, mais c'est que voilà, j'avais pas saisi.
Disons qu'à un moment donné où la relation physique s'éteint un peu, hein, faut bien le dire.
Enfin, c'est ambivalent, je vous ai dit, mon prof de fac, ça marchait très bien, même.
Mais il avait quel âge?
Il est un peu plus jeune que vous, certes, mais il s'appuyait ostensiblement sur sa canne et ça marchait très bien avec les filles. Ouais.
Ah bon, ah bon.
Donc,
je vais essayer, je vous dirai.
Oui, bah, il faut essayer.
Et
quand vous étiez venu dans l'émission que j'anime sur Paris Première, pour un spectacle qui était un peu du même genre, d'ailleurs, où vous racontiez votre art, ça marchait très bien avec mes chroniqueuses aussi. J'étais sûr qu'elles allaient vous dépecer, elles avaient été tout à fait charmantes.
Mais t'es jaloux, t'es jaloux.
La jalousie, c'est un moteur dans la vie. Il faut essayer d'être à la hauteur.
On doit vous dire, Jean-Pierre, que ça marche très très bien avec Noémie.
Voilà. Oui, très et là-dessus, il s'appuie sur sa canne. Très bien. On va retrouver dans quelques instants Alexis Le Rossignol. Nous continuerons de rendre hommage à Jean Pia. Mais d'abord, voici Clara Luciani avec On ne meurt pas d'amour. Clara Luciani sur Inter. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Jean-Pierre qui nous a malheureusement quittés. On réécoutera sa voix, on parlera évidemment de sa carrière et de son talent dans quelques instants avec sa bande originale. Mais d'abord, voici l'humeur de ce vendredi d'Alexis Le Rossignol.
Merci,
c'est
merci.
C'est la drôle d'humeur d'Alexis Le Rossignol.
Alors aujourd'hui, Nagui, c'est plutôt la triste humeur d'Alexis Le Rossignol.
Ah bon ? Qu'est-ce qui vous arrive ?
J'avais réussi à arrêter pendant 6 mois et là, bam, j'ai rechuté.
Ah, la cigarette ?
Non, pas la cigarette, cache investigation. j'ai regardé une seule émission et j'ai replongé.
Ah, on y est là.
Je regarde ça comme un film d'horreur, tu vois. Parce que ça fait peur, c'est vrai. Par exemple, le dernier numéro, c'était sur la pollution liée au plastique.
Ouais.
Et j'ai appris qu'en 2050, il y aura autant de plastique que de poissons dans les océans.
C'est dingue,
c'est incroyable.
Ça.
D'ailleurs, vous savez combien il y a de poissons dans les océans? Eh bien, c'est ça le problème, c'est que personne ne le sait. Parce qu'ils bougent trop. Contrairement aux humains qui s'arrêtent de bouger quand on les compte. En tout cas, il y a déjà des signes avant-coureurs de ce qui nous attend. Non, mais il y a déjà des signes avant-coureurs. Moi, mon poisson préféré, c'est le surimi. Eh bien, il a déjà goût de plastique. C'est pourtant, moi, je le prends en filet chez le poissonnier. Hein, je prends du surimi pêché à la ligne, pas en grand. Pas du surimi d'élevage, tu vois. On est mal, messieurs dames. Dans le monde, 10 tonnes de plastique sont produites chaque seconde. Hier, je suis allé courir. Au bout de 50 mètres, je tombe sur quoi ? Une bouteille de coca. Je refais 10 mètres, je tombe sur quoi ? Une bouteille de Badoit. Je reprends ma course et là, qu'est-ce que je vois ? Un sachet de mozzarella. Pourtant, c'est pas pratique à manger la mozzarella quand t'as pas d'assiette. Vous savez combien de temps j'ai mis à boucler mon tour de terrain à cause de ces déchets ? 1 minute. Ah voilà, tout rond. C'est rare parce que, en général, je fais des temps compris entre 54 et 56 secondes. Mais jamais des temps tout rond. Et là, j'ai fait 1 minute. Bon, tout ça pour dire quoi. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est qu'à force de regarder Cache Investigation, les Français vont perdre foi en l'humanité. Hein. Ouais. Alors qu'à la base, les Français, c'est des optimistes. C'est pas des gens qui se plaignent. Moi, je pense qu'Élise Lucet, elle devrait faire un numéro de Cache Investigation appelé Cache Investigation, la grande déprime. Elle pourrait s'auto-interviewer. Madame Lucet, Élise Lucet pour Cache Investigation France 2. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Madame Lucet, vous ne voulez pas répondre à mes questions? Madame Lucet, vous avez dénoncé l'utilisation de métaux lourds dans la fabrication des téléphones portables. Or, il est écrit dans ce rapport confidentiel que vous possédez vous-même un téléphone portable. Ma question est simple, Madame Lucet, possédez-vous oui ou non un téléphone portable? Madame Lucet! C'est l'effet de Madame Lucet qui s'éloigne. Il faut nous ménager. Hein. On le sait que le monde va mal. C'est pas nouveau. Est-ce qu'il est nécessaire d'insister? Quand quelqu'un a un cancer, tu lui dis pas « Excuse-moi, j'y connais rien en médecine, mais je suis curieux. » En fait, ce sont tes propres cellules qui te bouffent de l'intérieur. Oh, c'est moche. Puis elles ont l'air d'avoir bon appétit en plus. Hein. Non, mais c'est pour ça. Cache Investigation, c'est bien, mais c'est peut-être pas le moment. On n'est pas prêt à encaisser ça. Sans compter l'impact négatif sur l'industrie. Il y a déjà des gens qui ont commencé à boycotter Coca-Cola. Et moi-même, hier, j'ai acheté un coca, j'en ai bu deux gorgées, j'ai jeté ma bouteille. Dans ta face, coca. Malheureusement, qui dit boycott, dit baisse de la demande, dit baisse de la production, chômage, gens sur le trottoir d'en face. On n'est pas prêt à ça non plus. Là-dessus, tu rajoutes la dernière sortie d'Éric Zemmour et tu passes une mauvaise semaine.
Je ne sais pas vous, mais nous, après ça, on a envie de poser toutes nos RTT. De partir loin.
Voilà. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je ne serai pas là la semaine prochaine, je serai en vacances. Merci beaucoup,
on se voit dans 15 jours. De quel droit. Merci à Cyril Signal.
On s'appelle Nadie, la bande originale.
Non mais d'où tu prends déjà des RTT, ça fait...
Je fais pas les RTT, je suis en sans solde, Nagui. Mais j'allais pas lui faire dire ça, enfin.
Mais c'est bien d'avoir des pratiques.
Bon, je sais pas si Alexis Le Rossignol finira à la Comédie Française, comme Jean-Pierre. Je te le souhaite en tout cas, évidemment.
Je me le souhaite aussi.
C'est ça, très bien. En tout cas, comme tous les immortels, Jean-Pierre, c'était aussi une formidable carrière que nous allons revisiter dans quelques instants dans sa bande originale en réécoutant l'interview qu'il nous avait offerte il y a maintenant 2 ans. Mais d'abord, voici Mélissa Lavo avec Angelico, c'est la BO. Et aujourd'hui, nous rendons hommage à Jean-Pierre. Mélissa Lavaux avec Angelico, vous êtes bien dans la bande originale. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Jean-Pierre en réécoutant les passages de son émission et notamment sa bande originale où nous allons revisiter sa carrière en musique. On va commencer en 1928. Ah, ça change, hein.
Ça change. Les petits papas Noël, c'est monstrueusement.
C'est Jean Gabin.
Ah ben, ouais.
Jean Gabin avec la Java de Doudoune. Il se passait quoi en 28 de notable? Deux événements comme ça que vous avez pris au hasard, Leïla. Enfin, pas vraiment au hasard.
De naissance.
Pardon ?
C'est Miss Linguette, là.
Avec Jean Gabin.
Eh bien, en 28, Jean-Pierre, de naissance, de style, Pol Pot et Gainsbourg.
Ah oui, c'est pas vraiment le même genre. Et c'est la fameuse histoire de comme les rats. C'est-à-dire que là, en 28, c'est ce que vous racontiez tout à l'heure.
Moi, je chantais « Papa n'a pas voulu et maman non plus ». Vous connaissez cette chanson ?
Oui.
À l'école, quand j'étais petit, j'étais constamment puni. Un beau jour, je me suis dit, ça ne va plus ainsi. Il faut que ça finisse. J'épouse l'institutrice. Et quand on sera marié, je serai toujours le premier.
Non, on ne peut plus chanter ça maintenant, Jean-Pierre. C'est ça qui a changé depuis.
C'est vrai que ça a changé.
Mais on ne peut plus chanter ça, je pense. Que...
Oh, si, papa n'a pas voulu.
Pour les gamins qui veulent épouser des institutrices.
Oui,
et,
ah, bah,
et inversement.
Non, mais c'est vous, vous voyez côté malsain de la cougar, vous. Arrêtez.
C'était mouvant, non? C'est mouvant.
Mais vous chantez cette chanson dans la pièce?
Oui, dans la pièce, oui. Ben oui, c'est l'ouverture, si j'ose dire.
En 1936...
C'est aujourd'hui dimanche.
Oh ma jolie maman, j'ai mis ma robe blanche.
C'est pas émouvant, ça?
On ne peut pas écouter les roses blanches sans pleurer.
Oui, bien sûr.
C'est impossible. Non, c'est impossible. Les roses blanches.
Ouais. Moi, ça me fait
plaisir. Les roses blanches.
Ça dépend du degré de votre sensibilité, oui. N'est-ce pas?
Oh, mais ça dépend de l'amour qu'on a pour sa maman, mais on aime tous sa maman. Donc, les roses blanches, ça fait pleurer sur maman. Et mon vieux de Daniel Guichard fait pleurer sur papa.
Ah, bah, ça, voilà. Oui.
C'est deux chansons qu'il faut basculer.
Il y a presque un siècle d'écart entre les deux.
Non.
Entre maman et les roses blanches et la chanson de. Ah,
si, et mon vieux, qui avait été écrite par Jean Ferrat.
Non.
Non, il y a 50 ans. En 36, il se passait quoi, Leïla?
En 36, on découvre les congés payés et la coccinelle.
Et en 36, vous choisissez l'option théâtre au lycée Janson de Saïs, ça aussi.
La création des loisirs dirigés, c'est essentiel.
C'est ça.
C'est à cause de ça que je fais du théâtre.
Et le Front Populaire.
Le Front Populaire, oui, bien sûr.
Et vous,
c'est grâce à cette nouvelle exigence intellectuelle et en tout cas scolaire. Il y avait quatre options possibles. Le sport, le théâtre, la musique ou les visites de musées. Les visites de musées, ça m'a toujours emmerdé, ça continue d'ailleurs.
Mais le sport, par contre, j'ai toujours aimé. Pourquoi
le sport, j'ai toujours aimé, oui, mais je faisais déjà du sport. Je jouais au football à la Esterne. Il y a le patronage Saint-Ferdinand des Ternes. Je jouais à la Esterne. Pour un acteur futur, c'est embêtant de jouer à la Esterne, mais enfin, c'était comme ça. Mais je jouais à la Esterne, donc je faisais
surtout
du sport.
Surtout pour quelqu'un de si brillant.
Et j'ai inscrit le mot théâtre, je sais pas pourquoi maintenant, je sais pas, j'avais jamais mis les pieds dans un théâtre. Mais j'ai toujours eu le sentiment d'être accompagné par quelqu'un. C'est-à-dire ma mère est morte en 41 et je crois qu'elle m'a pris par le bout du nez, elle m'a mené là où je devais aller pour rassurer mon père. Je suis rentré au français, j'aurais jamais dû rentrer au français.
Alors on va y arriver justement. Vos débuts passent par le conservatoire justement dans les années 40. Et là on va faire un petit bond en 1947.
C'est si bon.
Oh oui.
De partir n'importe où.
Oh, et à bicyclette.
Bras dessus.
Oh mon dieu.
En chantant des chansons.
C'est une imitation.
Il a
est-ce
tous les talents.
Est-ce qu'on peut le garder? On va en faire un jingle.
Un jingle.
Oui, quoi? Mais c'est Paulette. Yves Montand, c'est si bon en 47. Il se passait quoi en 47, Leïla?
En 47, André Gide remporte le prix Nobel de littérature et le mur du son est franchi pour la première fois.
Ouais. Alors le mur, vous l'avez franchi, mais en étant expulsé du conservatoire pour des raisons disciplinaires. Vous étiez indiscipliné, ce que vous racontez aussi dans votre pièce?
Mais oui, il y a un concours. Enfin, il y avait une exigence au conservatoire, c'est qu'il y avait un examen de littérature obligatoire. Pour les élèves de première et deuxième année. J'étais en deuxième année et je tombe sur une question sur le théâtre grec. À part le nom d'Aristophane, je ne connaissais pas grand-chose du théâtre grec. Alors bon, à un moment donné, après un temps d'inutile méditation, je me lève et je vais vers un bouquin. Ça se passait dans la bibliothèque du conservatoire. Et le nouvellement nommé à cette fonction, un monsieur qui était très sérieux, professeur de littérature à la faculté des lettres de Paris. Enfin bon, mais qu'est-ce que vous, Pierre, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je sais rien sur la question, je vais voir si je trouve un livre qui peut m'apporter quelque chose. Vous votez de moi? Non, je ne me fous pas de vous, mais... Non, mais énorme. Vous plaisantez alors? Non, je plaisante, sortez.
Eh oui, non, alors...
Je dis, mais monsieur, sortez. Et je suis viré du conservatoire, je suis viré d'abord de la bibliothèque.
Pour avoir rendu un hommage à Sacha Guitry.
À Sacha Guitry.
Et c'est ce que j'ai appris dans votre pièce, ouais. Elle est formidable cette citation de Guitry.
C'est merveilleux.
Ah, je vous en prie.
Ah oui, non, c'est merveilleux. Guitry disait, pourquoi apprendre ce qui est dans les livres, puisque ça y est. Alors je lui ai dit ça au prof de littérature, ça ne l'a pas convaincu du tout. J'ai été foutu à la porte pour indiscipline.
Vous avez donné des idées au camp.
Ouais, là, vous avez généré des...
Vous avez lancé une mode.
C'est pas bête, non?
Non, pas bête.
Pourquoi l'apprendre?
Pourquoi apprendre ce qui est dans les livres, puisque ça y est.
C'est formidable. En 1973.
Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse. Ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain.
Il se passait quoi, Leïla, quand Clo-Clo chantait cette chanson populaire?
Eh bien, en 73, on commence à lire Libé et on regarde La Grande Bouffe.
On a dit que vous aviez été viré du conservatoire, mais vous êtes quand même entré à la Comédie Française en 47.
Sur audition.
Voilà, et vous devenez en 73, le 1er janvier 73, vous devenez sociétaire honoraire. C'est votre
non,
maison.
Pas honoraire, je suis bien sociétaire de la Comédie Française, mais je crois que c'est avant 73, car en 73, je suis parti du français, donc j'aurais pas pu être nommé.
Non, 73,
j'ai été nommé sociétaire honoraire
parce que
je suis parti.
Parce que vous quittez. Voilà, c'est ça.
Bah oui, je me suis fait.
Oui. Donc je me suis pas trompé, oui, comme vous êtes parti. Oui, c'est ça.
Parce que j'avais débuté avant, j'avais fait 25 ans de Comédie Française en 73.
En fait, on vous vire de partout.
Genre. Ah non, je me suis viré moi-même. Non. Là, je jouais une pièce qui s'appelle, au titre prémonitoire, qui s'appelait Le Tournant. Je voulais jouer une pièce appelée Le Tournant de François Zerin. C'était vraiment un tournant, car j'ai joué ça, je sais plus, 900 fois, je crois, à peu près. Et ça a été le point de départ d'autres choses. Vous savez, dans la vie, je crois que chaque âge a besoin d'aller voir s'il n'y a pas un ailleurs quelque part. Et au bout de 25 ans de Comédie Française, j'ai eu envie d'aller voir s'il n'y avait pas un ailleurs. Puis d'autre part, il y avait un petit problème. Les règlements de la Comédie Française, au temps où j'y étais, je ne sais pas si c'est la même chose maintenant, impliquaient que la troupe, la force de la Comédie Française, c'était de renouveler sa troupe. Donc elle mettait à la retraite des gens qu'elle estimait devoir mettre à la retraite pour pouvoir engager des sociétaires, pour pouvoir nommer sociétaires de jeunes pensionnaires qui attendaient le...
Ça devrait généraliser cette pratique dans d'autres domaines, ouais, dans d'autres milieux, ça serait pas mal. Ouais.
C'est une organisation exceptionnelle, la Comédie Française. Donc, il y avait tout de même... Vous savez, quand elle renouvelle sa troupe, il y a des renouvellements tels que les anciens, très anciens ou trop anciens, commencent à se dire « je vais être viré ». Et c'est vrai, ça arrive, ils sont mis à la retraite. C'est pas être viré, ils sont mis à la retraite. C'est un terme différent, mais c'est le même effet.
Ce qui est formidable, c'est que je me rends compte que depuis le début de cette émission, toutes les questions qu'on peut vous poser, en fait, les réponses sont dans Pièce d'identité.
Ah oui, bien sûr.
C'est là où c'est vraiment c'est votre vie.
Sinon,
et c'est
ce serait bête de faire un spectacle sur autre chose que ce qui m'est arrivé.
Ah, il y a un truc. D'où Nagui l'autre dicton, pourquoi m'interviewer puisque c'est dans le livre. C'est l'autre principe.
Il est en train de se dire ça.
Alors, il y a un truc qui n'est pas dans la pièce, c'est ce qui se passe en 97. Florent Pagny, savoir aimer, il se passait quoi en 97, Leïla?
Eh bien, Chirac nous fait le coup de la dissolution et Hong Kong celui de la restitution en redevenant chinois.
Et certains prennent ça comme un message d'amour, justement, puisqu'on entend savoir aimer. En 97, vous recevez un Molière. En 97.
Oui, il était temps. Oui.
Voilà.
Non, mais c'est pas comme acteur, c'est comme adaptateur d'une
en plus.
Pièce qui s'appelle L'Affrontement, qui s'appelle toujours L'Affrontement, d'ailleurs.
Ça vous a vexé, ça, de...
Et que j'ai joué avec... comment s'appelle-t-il? J'ai un trou. Lalanne. Francis Lalanne.
Mais ça vous a vexé de ne pas avoir de Molière, comédien, mais d'adaptateur?
Non, au contraire, j'étais très flatté. Non. Vexé, pourquoi?
Bah parce que vous êtes comédien.
Oui, d'accord, mais enfin, j'étais aussi adaptateur. Donc
oui, mais vous êtes dans votre vie.
Oui, prioritairement, je suis acteur, oui. Non, pas du tout, non. Vous savez, les récompenses, à partir du moment où vous avez été foutu à la porte du conservatoire, les récompenses ne vous intéressent plus. J'ai jamais concouru, car il y avait un concours de sortie.
Alors qu'est-ce qui vous intéresse? Si ce n'est pas la reconnaissance de vos pairs?
C'est la reconnaissance du public. On vit grâce au public. Ce n'est pas à cause des copains qu'on vit. On vit parce que, brusquement, les gens décident qu'ils viennent vous voir. Puis un jour, ils décident qu'ils ne viennent plus vous voir. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ils ne viennent plus vous voir.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Cet amour du public, on le voit avec Jean-Pierre, Daniel, oui. Pour un comédien, c'est impossible de quitter la scène quand on a l'amour de ce métier, de ne plus avoir ce rapport avec le public.
L'amour du métier, mais quel amour? L'amour n'a rien à voir là-dedans, Nagui. Arrêtez un peu avec les bons sentiments, on a l'impression que vous êtes de gauche. Non, ce qui reste sur scène, c'est pour le pognon. Mais oui, arrêtons avec l'amour du travail, le travail c'est l'enfer. Et même si parfois l'amour est un enfer dans lequel on aime se brûler les ailes et autres extrémités, ça n'a rien à voir avec notre affaire. Monter sur scène pour avoir face à soit un parterre de gens qui vous regardent et vous jugent, alors que, je me permets de le rappeler au passage, vous ne les connaissez même pas, c'est insupportable. Alors déjà que j'ai du mal à accepter la présence des gens que je connais, je ne vous dis même pas ce que je pense de la présence d'inconnus. Ça m'emmerde, mais d'une force. Alors bien sûr, vous me direz, Jean-Pierre a du talent, c'est un bonheur pour lui de partager et d'en faire profiter les autres. Et alors ? Ça l'empêche pas d'aimer le pognon, l'oseille, la maille, le flouze, la caillasse. Tout Jean-Pierre qu'il est, je suis désolé. Jean-Pierre, 46 ans de comédie française, avec l'ancienneté, chaque fois qu'il met un pied sur une scène publique, il touche une fortune. En même temps...
Là, il y a à dire.
Apparemment, il est vrai, oui.
Revendication.
Là, il y a à dire.
Droit de réponse juste après. En même temps, c'est une valeur sûre, hein, le jeune homme. Un détail. En 64, la première de Cyrano, qui va interpréter plus de 400 fois, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, à la fin de la première représentation, il y a eu pour Jean-Pierre plus de 50 rappels.
Wow.
Incroyable. Alors voilà mon petit Nagui, la scène c'est pas de l'amour, c'est le jackpot. Jackpot financier pour le comédien, le producteur, le directeur du théâtre et jackpot émotionnel pour tous les spectateurs qui se régalent du jeu aussi parfait qu'inoxydable d'un monstre comédien qui fait le bonheur des planches depuis bientôt 75 ans.
Yes, merci d'être là.
La bande originale, Nagui sur France Inter.
Alors contrairement, Daniel, à ce que tu viens de dire, ouais. Jean-Pierre n'aime pas compter, sauf... qu'il compte les rappels. Et lorsque tu as dit 50 rappels, il serait temps de préciser, c'est une fausse information. Dites la vérité, il n'y en a pas eu 50, il y en
49.
A eu... 49. Voilà. Ah, c'est... Ah,
bah,
oui,
bah,
voilà.
Bon, bah, d'autre part, je voudrais vous dire une chose, le théâtre nourrit son homme, mais ne l'enrichit pas.
Ah, c'est joli.
Et 49 rappels, ça dure combien de temps?
Séance 2.
Ça dure combien de temps?
Rappel, ça dure combien de temps? C'est 20 minutes?
Ah, bah, ça durait un quart d'heure, 20 minutes. C'est même ça, ouais. Toja, qui jouait à ce moment-là, Christian, était rhabillé complètement. Il est venu en veston, alors qu'on était encore dans les costumes du machin. Il est venu saluer parce que, ah, Toja, qui jouait Christian. Il est revenu habillé
en civil.
En civil, oui.
Est-ce que c'était une soirée de colle dans les
parties? Non, je crois. Je crois que, vous savez, je crois que chaque génération découvre Cyrano.
Non, mais puis surtout,
il y a maintenant un Cyrano nouveau qui se passe, je crois, dans un asile.
Et l'histoire est totalement intemporelle, quoi.
Oui, et puis je crois que chaque génération a un besoin de cette espèce de poésie lyrique qui se glisse à travers les vers de Cyrano. Mais
vous dites, il y a deux moteurs à la vie et au théâtre, c'est l'amour et...
Oui, l'amour et la passion, quoi, ça, ouais. C'est évident. Et puis il y a un côté détaché, il y a un côté, comment dire... Il y a un côté poétique, bien sûr, même si c'est une poésie un peu 1900, comme une chanson, comme « J'aime ta robe blanche, ma jolie maman », c'est un peu ça. Mais il y a quand même, si vous voulez, là-dedans, un portrait flatté ou flatteur du génie français.
Je me rends compte que c'est... On parle beaucoup de Cyrano. Vous m'avez dit d'ailleurs, hors antenne, que vous le jouiez façon western, un peu, ce Cyrano. C'est ce qui avait fait le succès.
C'était le succès de cette époque-là.
Voilà.
Parce que c'était monté comme un western.
Mais c'est plutôt Figaro qui ressort grandi dans cette
Figaro du mariage. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a une espèce d'injustice à l'égard de Beaumarchais. Ils ne disent pas parce que le mariage disparaît sous les noces, si je puis dire. on parle des noces de Figaro, de Mozart. Mais le Beaumarchais, c'est fini. Or, il y a dans les noces de Figaro, dans le mariage de Figaro, un élément essentiel, c'est le monologue. Pour nous, acteurs, le monologue du 5 est une récompense, est un cadeau que fait l'auteur aux interprètes futurs. Et qui est d'une modernité, mais presque grave. Ah oui, c'est formidable.
Qu'est-ce qui vous plaît de vous dans ce... Oui, parce que tout le monde en prend pour son grade.
Tout le monde, la naissance, tout, quoi.
Les grands.
Parce que vous êtes un grand seigneur, vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places. Tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous êtes donné la peine de naître. Il n'y a rien de plus. Du reste, ça m'a assez ordinaire. Bon, il y a une franchise là-dedans. Enfin, il y a après d'autres phrases que je ne veux pas citer à l'antenne, car elles seraient peut-être mal reçues.
Pourquoi? Faites ce que vous voulez, hein.
Vous croyez?
Bah oui, évidemment, oui. Faites ce que vous voulez.
Auteur espagnol, je crois pouvoir y fonder Mahomet sans scrupule. Il écrit pour le théâtre. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint de ce que j'offense dans mes vers, la sublime porte, la perce, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc. Et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince mahométan, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrisse l'omoplate en nous disant chien de chrétien. Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. C'est une conclusion intéressante quand même.
Oui, qui prend, c'est
vrai, il y a encore bien d'autres choses.
Et qui prend une dimension incroyable.
Ouais. Actuellement, oui.
Bah oui.
Actuellement, oui. Ah ouais.
Et donc, ça vous fait quoi que l'on vous parle plus, comme d'ailleurs, pardon, nous l'avons fait nous-mêmes, de Cyrano que du mariage de Figaro?
Ça me fait plaisir, parce que de toute façon, le mariage de Figaro, c'est un chef-d'œuvre. Le personnage de Figaro me représente presque complètement, parce qu'il écrit une chose qui est importante. Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir. Moi, j'ai fait du théâtre sans le vouloir. C'est un peu mon cas. Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir. Comme j'en sortirai sans le vouloir. Sortir de la route sans le vouloir, c'est notre cas à tous. Je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. La conclusion, c'est un exemple de santé morale exceptionnelle et on a envie de le faire comprendre, de le faire savoir.
Vous avez tout compris avec ce que vient de faire Jean-Pierre, c'est-à-dire la facilité et l'intelligence de se raconter en passant par le prisme de grandes plumes, de grands auteurs et de grands monologues. Georgia Smith, cette nouvelle voix qui chante Blue Lights dans la BO sur Inter.
I wanna turn those blue lights into strobe lights. Not blue flashing lights, maybe fairy lights. Those blue lights into strobe lights, maybe even fairy lights. Not blue flashing lights. Don't you run. Even the fuss, but the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act. He's gonna whisper, look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship. Has men like you gonna make me a convict? Level of a felon when I've done nothing wrong.
nous ces belles voix de Georgia Smith avec ce titre Blue Light, et nous allons retrouver également la douce voix de Jean Pia lorsqu'il était venu dans cette émission en 2016. Nous lui avons demandé de se servir de sa mémoire pour justement ne jamais oublier quoi. Jean Pia, je vais commencer toutes mes phrases par « je n'oublierai jamais », à vous de les conclure comme vous l'entendrez, puisque la mémoire est quelque chose de clé pour un acteur, pour un comédien et un auteur. C'est Richard Larnac qui nous accompagne.
C'est pour ça que je parlais de Petit Papa Noël, parce que c'est...
Bah alors justement, tiens, je n'oublierai jamais dans ma chambre d'enfant. S'il y a quelque chose qui vous a marqué ?
Non.
Dans votre chambre d'enfant ? Rien. Très bien. Je n'oublierai jamais mon premier baiser.
Ah, ça oui.
C'était...
Pour une raison grave.
Ah.
Oui, parce que je lui ai donné rendez-vous un autre jour, et je ne l'ai jamais revue. Elle était juive, elle était partie en fumée.
Ah.
Et c'est extraordinaire, parce que le premier baiser que j'ai échangé avec elle, j'ai eu la tête qui tournait.
Oh, c'est
comme
mignon.
Si vraiment je m'évanouissais.
C'est mignon, c'est mignon.
Ouais.
Je n'oublierai jamais mon premier sentiment de liberté. De pouvoir faire ce que j'en veux.
J'ai toujours eu le sentiment de ma liberté.
Il n'y a pas eu un moment où, entre votre enfance, l'adolescence,
non,
le
métier d'acteur était une exigence, mais une exigence qui me faisait plaisir. Alors, non, je n'ai pas eu le sentiment d'être privé de liberté.
Je n'oublierai jamais ma première idole. Qui admirez-vous ?
Qu'est-ce que j'ai eu comme idole ?
Ouais.
Maurice Chevalier.
Ah ben voilà.
Oui, j'ai eu Maurice Chevalier comme idole. Et que j'ai rencontré beaucoup plus tard, après. Il m'a invité à déjeuner, enfin c'était formidable.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Nous retrouverons Jean-Pierre, ou du moins la rediffusion des passages de Jean-Pierre, ça sera après les infos de midi. Mais aujourd'hui, vendredi, Tanguy, bonjour.
Bonjour Nagui, bonjour
Anne
à tous.
Anne Hidalgo apparaît totalement isolée à Paris.
Oui, son premier adjoint notamment est parti. Elle pleure en regardant le balai des Vélib crevés slalomant entre les rats sous ses fenêtres de l'hôtel de ville. Mais le temps de la reconquête arrive puisqu'elle sort un livre, comme l'ont fait avant elle Proust, Zola, Loana.
On en parle après les infos de midi. Avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin,
bonjour,
bonjour. Alexis Le Rossignol, Frédéric Sigrist, Jody Bassureau. Et ce matin, nous avons voulu rendre un hommage à un immense comédien, Jean-Pierre, qui nous a malheureusement quitté cette semaine. C'était mardi. Il était passé nous voir un matin de janvier 2016 pour parler de pièces d'identité, un texte qui revenait sur son incroyable carrière. Et à ce micro, il y avait également Noémie Delattre et Eric Nolot. Jean-Pierre, un immortel, touche à tout, et qui le restera, parce qu'on a en souvenir ce qu'il nous disait, notamment sur la Comédie Française.
J'avais joué sur les boulevards, déjà une pièce de Roussin qui m'a dit « Vous êtes perdu pour le boulevard ?» J'ai dit « Je ne sais pas, oui, peut-être, je ne sais pas. » Je rentre, on m'a demandé une audition. Je l'ai passé, l'audition, et je l'ai réussi. J'ai passé une audition en juin, et j'ai été engagé pour le mois de septembre suivant. Mais j'avais déjà joué deux pièces sur les boulevards.
Et on n'a pas le droit de... Normalement,
si, si, vous avez tous les droits, mais
c'est mal vu. Pas le même, c'est mal vu.
Ah, ouais. Non. Quand vous êtes rentré aux Français, vous ne jouez pas sur les boulevards.
Oui, mais quand on l'a fait avant. Quand on l'a fait avant,
on peut être engagé aux Français.
Oui, mais il y a pas un côté, c'est mal vu, c'est pas
rien du tout. Non, j'avais fait 2 ans de boulevard avec des gens très bien. C'était Roussin. C'était une pièce de Roussin. Et avant, c'était une pièce de Bourdet. C'était très honorable.
C'est chic,
finalement. C'était des grands auteurs qui vivaient encore à cette époque-là.
Il y a boulevard et boulevard.
C'est ça.
Oui, il y a boulevard et boulevard, oui, bien sûr.
Le boulevard, même s'il n'y est pas encore, il commence à brûler les planches. C'est Tanguy Pastureau maintenant sur la terre. Tanguy, Anne Hidalgo, maire de Paris, contre-attaque.
Oui, elle en a marre d'être attaquée juste parce que c'est une femme et parce qu'elle est d'origine espagnole et parce qu'elle est belle et parce que les autres sont méchants. Tout le monde se moque d'elle puisqu'elle a la même crédibilité que William Lémergie s'il se lançait dans la capoeira. Elle a donc décidé de contre-attaquer et ce en sortant un livre. Ce qui est vain puisque personne à part Bernard Pivot n'a fini Balzac. Donc c'est pas pour se taper le bouquin d'Hidalgo. Ce serait comme d'assister à un concert hommage à Leonard Bernstein au Carnegie Hall de New York et en plein milieu foutre ses écouteurs pour écouter le best-of de Britney Spears. Bref, le livre s'appelle Respirer, ça tombe bien, cette année à Paris, ça a été le record de pollution à l'ozone. Donc, ça équivaut à éditer le Goemio en Somalie. Alors, le bouquin fait 80 pages, coûte 8 euros, ça fait 10 centimes la page. Si vous êtes pauvre, essayez de négocier, prendre deux pages, les libraires sont mal à cause d'Amazon, ça peut être jouable. Et Le Point publie les bonnes feuilles du livre. Mais il y a aussi des trucs super dans ce journal, comme les mots croisés à la fin. Et donc, Hidalgo détaille son bilan, qui tient en trois points. 1. Développement de la faune, plus 700% sur les rats. 2. Propreté de la ville, les poubelles notamment sont très propres, puisque les déchets sont à côté sur le trottoir. 3. Éradication des automobilistes, donc à terme de RMC Info. Elle aura plus fait pour la culture que Jack Lang en 30 ans de vernissage d'expo à la mort moelle-neu et en bougeage de body sur le beat de DJ Silvio Masterflex. Et surtout, ce qui a bien dans le livre, c'est qu'on y retrouve une Hidalgo à fond, avec l'âme d'un guerrier Maasai qui voit débouler un lion et lui crie « Allez, viens, Simba, que je te dérouille !» En 2020, il y a les municipales, et là, on se dit que c'est mal barré, parce qu'elle est moins populaire qu'un naftolingual. Et elle écrit « On me dit que je vais perdre, et pourtant, nous allons gagner. On ne sait pas qui est ce nous. Peut-être les autres gens qui font du vélo dans sa tête, et qui lui crient « T'es super, Anne !» ou « Fuck Dacia Duster !» Seulement, en face d'elle, ils sont 700 à vouloir le job. Ils pensent qu'il va suffire de lancer de l'emmental râpé par terre pour calmer les rongeurs. Exemple est intéressé Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. Donc en fait, il va sur le net. Tu parles d'un métier de branleur. Il achète des pulls sur vente privée, éteint sa tablette et dit voilà, grosse journée. Mais Benjamin Griveaux, autre sbire d'Emmanuel, veut lui aussi la place. Au gouvernement, il va juste rester Jean-Yves Le Drian en train de moisir puisqu'il ne bouge plus.
Bon, on parle également d'une candidature de Gaspard Ganzer.
Oui, ancien conseiller en communication de François Hollande, job qui a consisté à regarder Fanfan partir en roue libre. Il a quand même parlé pendant 900 heures par mois à la presse. Si Journal de Mickey lui demandait le code nucléaire, il le balançait. À droite, Rachida Dati pourrait y aller, mais en tant que maire d'un Paris rétréci au 7e, 8e et 16e arrondissement. Et encore pas le village de Teuil parce qu'il y a un PMU. Et enfin, du côté de la France insoumise, Danielle Simonet sera candidate. Si elle est élue, il est prévu qu'à la Concorde en remette la guillotine. Et seront convoqués Vincent Bolloré, Bernard Arnault, la FIB est en cours. Tous les riches jusqu'à Eric Sanchez, un anonyme qui a parié sur Betclic que le fils du prince Harry, quand il en aura un, s'appellera Toufik. Il suffit que le prince soit déchiré, comme souvent, pour que ce soit le cas. Le seul souci pour Hidalgo, c'est qu'elle est seule. Elle attire moins les gens qu'un lépreux avec une pancarte Free Hugs. Bruno Julia, son premier adjoint, l'a quitté. Un jour, il s'est fait mordre par un rat alors qu'il roulait sur un vélib sans selle. Il s'est dit, c'est plus possible, j'ai mal. Il vient de partir. Donc, il dit réfléchir à un autre avenir professionnel. Donc, il va peut-être se lancer dans l'horticulture. Parce que le mec à qui Macron a fait un point route là, a reçu 4000 offres d'emploi dans le secteur, ça recrute. Donc Julliard n'en pouvait plus parce que la mairie de Paris, c'est n'importe quoi. Ils prennent du LSD, c'est Goa en 72. Et ils ont quand même sorti un clip intitulé « Pas pipi dans Paris » pour inciter tous les dégueux à arrêter de se soulager dans la rue. On en est là. Demain, l'agence de com qui a pondu le truc peut appeler l'Inde et leur dit « Les mecs, avez-vous des soucis de déjection chez vous parce qu'on a pensé une chanson qui fait pas caca à Calcutta ?» Non mais, les paroles de « Pas pipi dans Paris », ça donne, c'est vrai, ça sent pas le pipi, merci à ceux qui font pas pipi. Enfin là, si ça remporte la victoire de la musique à la place de Miossec, qui certes a longtemps fait pipi, mais dans Brest, or il pleut, ça nettoie, moi je quitte la France. Alors que ce dont on a besoin, c'est de la fermeté. Vous pensez que Mélenchon, s'il va à Caracas au Venezuela, il va faire pipi dans la rue? Ben non, parce que Nicolas Maduro, le tyran au pouvoir, est ferme, lui direct il prend un sécateur, en chantant pas de bitasse à Caracas, parce que l'agence de com lui aura filé une chanson. Bref, il reste deux ans à Anne Hidalgo pour éradiquer l'urine si elle veut rester dans sa grande maison.
Merci, Tanguy Pastereau.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Bande originale en hommage à Jean Pia qui nous a quittés mardi dernier. Ça continue jusqu'à midi et demi. On ne peut pas faire une émission avec vous sans parler de Françoise Dorin. C'est pas possible.
Si vous voulez.
Que vous évoquez dans la pièce, avec ce merveilleux poème,
après 25 ans de comédie française, jouer une pièce qui s'appelle Le Tournant, c'est un signe tout de même. Et c'était le titre de la pièce que j'ai jouée en sortant du français. Mais je ne la connaissais pas.
De Dorin.
Je ne la connaissais pas.
Ouais, c'est signé Dorin, oui, absolument. Ouais, tu as raison de le préciser, Eric. Donc ça fait combien d'années que vous connaissez?
Depuis, attendez, j'ai créé le Tournant en 73, 75, non, 76.
D'accord.
40 ans.
D'accord. Ouais, c'est ça, plus de 40 ans. Plus de 40 ans.
J'aurais pas cru, j'ai pas fait attention.
Ça passe vite.
Oui, très. Je peux vous le jurer.
Et comment vous pouvez qualifier cette histoire, vous et Françoise Dorin, si
vous savez, je crois que tout le monde a rencontré dans la vie un être qui ou un être que. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que on cherche toujours un ailleurs. Et c'était un ailleurs. C'est un ailleurs. Enfin, tel que ailleurs... maintenant, j'ai plus à chercher un autre ailleurs.
Oui, c'est ça. J'ai un ailleurs qui dure 40 ans, ça devient...
Un chez soi.
Tout de suite, oui. On va retrouver Jean-Pierre dans quelques instants avec le brouillon de culture que Leïla Kadour-Boudadi lui avait consacré, les échanges entre eux. Il est ici chez lui tous les vendredis, en tout cas, quand il n'est pas à l'autre bout du monde. Voici Frédéric Sigrist.
Bonjour à tous. Alors, lorsque l'on a comme moi la lourde tâche de débriefer la semaine de la bande originale, il est important de trouver
un axe. Et de l'écouter
axe.
Surtout, c'est
Mais
ça.
Mais oui, oui, hein. Il faut trouver un axe, un angle, une thématique sous-jacente qui aurait été le fil conducteur durant ces 5 derniers jours.
J'ai peur.
Et cette semaine, en dehors de l'hommage que l'on vient de faire à Jean-Pierre, un hommage dérangeant tellement il était bien tenu.
C'est ça.
Eh bien, en dehors de ça, l'axis mundi de cette émission cette semaine, c'était... du cul, ouais. Du cul, du cul, du cul, du cul, mais uniquement en...
toile de fion, de fond.
Voilà, c'est franchement, c'est la dernière fois qu'on laisse Guillermo en charge de la programmation. Hein. Non mais on est sur France Inter, Nagui. La station de Laura Adler, Kathleen Evin, Augustin Trapenard, à vous de trouver l'intrus.
Culture.
Non, il est 11h du matin. C'est pas parce que notre public a souvent l'air très fatigué que ça veut dire qu'il fait nuit. Cette semaine, on aurait reçu des coups de fil d'adolescents pendant l'émission. Doc Edifool nous attaquait pour plagiat. Je sais pas si vous vous rendez compte, Nagui, mais les auditeurs qui nous suivent sortent tout juste d'une heure avec Ali Rebéi. En général, ils sont sur la bienveillance, facilite le transit intestinal, manger bio, agrandit ton appart, ce genre de choses, quoi. Je sais pas s'ils étaient préparés à entendre ça.
Une demi-molle, c'est 17.
Voilà, voilà. Une demi-molle, c'est 17. Alors, je juge pas Jérémy, hein, c'est toujours important d'être précis sur les chiffres. Mais finalement, la sexualité, c'est comme les dossiers d'Alexandre Benalla. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout savoir? Hein, c'est en tout cas ce que je disais ce matin à notre patronne Laurence Bloch, qui essayait de retrouver le numéro de Frédéric Lopez. Hein, en même temps, si on se retrouve dans une ambiance comme celle-là, c'est aussi qu'on se sent à l'aise. Parfois trop.
Une boîte échangiste, pour ceux qui ne la connaissent pas, à Paris.
Voilà, voilà. Et là, évidemment, vous parliez de Daniel Morin.
Il faut être précis, oui. Oui,
Daniel qui fréquenterait les boîtes échangistes. Et là, j'ai tiqué. Parce que Daniel, dans une boîte échangiste, j'y crois pas une seule seconde.
Ça fait peur.
Cet homme n'a rien à échanger. Daniel, il vient à un apéro où tout le monde doit ramener quelque chose. C'est le seul qui repart avec plus de plats qu'il en avait en arrivant. Sexuellement, c'est pas un homme qui troque, c'est un homme qui traque. Non. Alors, heureusement, ce qui me rassure sur la déontologie du service public, c'est que lorsqu'il y a un dérapage à l'antenne, on peut toujours compter sur le maître de cérémonie pour recadrer le débat.
C'est un pervers, j'adore l'idée.
Voilà. Voilà, c'est vraiment dommage qu'on n'en ait pas dans cette émission. Hein. Et Leïla.
Quoi ?
Mais que dire de Leïla ?
Elle a tout révélé.
Non mais jusqu'à ce jour, ouais. Leïla, tu étais l'oasis de culture et de réflexion dans le désert de vacuité que représente cette émission. Tu en as conscience, hein ? Madame JT de France 2 à 13h, toi l'ancienne journaliste d'Arte, même moi qui t'ai déjà vu éméché, je peux en témoigner au public. Quand tu rôtes, c'est en latin. tu le sais qu'il y a des auditeurs anciens profs de lettres qui se retiennent de respirer tant qu'ils n'entendent pas le son de ta voix dans cette émission. Eh bien, cette semaine, Leïla, ces gens-là sont morts.
C'est pas de la prostitution, à partir du moment où tu offres un service.
Voilà, la prostitution est un service. Alors, en même temps, je t'en veux pas. J'imagine que si on embauche Bernard Pivot dans la bande originale, au bout de 3 émissions, il fait tourner les serviettes sur du Patrick Sébastien. Enfin, je crois qu'on est arrivé à un stade où même Michel Simès, il va nous trouver trop graveleux pour lui, hein. Heureusement, et c'est ça qui fait notre force, niveau interview, on est toujours à la pointe de ce qui se fait.
Vous jouez le rôle d'Arnaud, un jeune de 25 ans.
26,
plus tard. Déjà, ça commence mal. Pourquoi Guillaume Gané n'est pas spécialement...
Gané, pas Gané, parce que...
J'ai dit Gané.
Ah, j'ai compris Gané.
Voilà, alors je sais, les plus sévères de nos éditeurs vont me dire, bah, vu le bilan que je viens de dresser, pourquoi continuer d'écouter cette émission ? Eh bien parce que, c'est vrai, on pourrait se poser la question. Eh bien, parce que dans le reste de l'actualité, cette semaine, ça ne valait pas mieux. Macron nous a invités à traverser la rue sans regarder pour trouver du boulot. Éric Zemmour veut rebaptiser Nagui Jean-Guy. Les députés ont de nouveau voté contre l'interdiction du glyphosate. Et Alexandre Benalla, l'intérim le plus célèbre de France, a expliqué au Sénat comment on pouvait cumuler 9 emplois sans être compétent dans aucun. Alors, franchement, ne nous jetez pas la pierre, surtout que finalement, les plus grosses conneries, on n'en est même pas forcément les auteurs.
François Berléand, on sait, c'est un génie absolu.
Et voilà. Ça sera okay, difficile de faire mieux la semaine prochaine. Salaud.
Merci beaucoup, c'était Frédéric Sigrist. France Inter, midi, la bande originale. Hommage à Jean-Pierre ce matin dans la bande originale. Ce comédien, chanteur également, va nous raconter tout ce qu'il aimait dans la culture, dans le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudadi.
Jean,
des questions qui vous concernent, vos réponses à tous autour de la table. C'est le brouillon de culture sur France Inter et comme le veut la tradition, on va commencer par un son petit indice. Ce sont trois doublages mythiques que l'on vous doit, à vous, tous autour de la table, de reconnaître les films dont il est question.
Waouh.
Mon truc, William Potter, c'est de ne pas faire attention quand ça fait mal.
Et tout à fait entre nous, tu pourrais travailler ton petit rugissement. Crétin de touc.
Livre de la jungle et le Seigneur des Anneaux, c'est les deux derniers.
Alors, c'est alors, le Roi Lion, c'est pas le Roi Lion,
c'est trop tard.
Ah oui, moi j'aurais dit Livre de la jungle aussi, mais c'est le Roi Lion, d'accord.
Le Roi Lion, le Seigneur des Anneaux, très bien, Noémie. Et
le premier, j'ai pas reconnu.
C'est mythique, c'est Laurence d'Arabie.
Ah oui.
Ah oui, c'est vrai.
Vous non plus, vous avez pas reconnu.
Oh, il y a une chose extraordinaire. J'ai rencontré un jour au Toul, chez Lip. Et je venais de doubler le rôle de Laurence d'Arabie. Et je lui ai fait comprendre que c'était moi l'acteur français qui doublait sa voix, etc. Il s'en foutait complètement. Il était déjà plus ou moins bourré. Il s'en foutait. Admirable acteur O'Toole, admirable. Je l'ai vu après à Londres dans une pièce qu'il jouait. C'était
fantastique. Est-ce que la qualité du jeu du comédien que l'on double
compte énormément. Ouais. Les mauvais acteurs, c'est dur à doubler. Oui.
Ouais. Et c'était Mufasa dans le Roi Lion, c'est ça?
C'était Scar dans le Roi Lion, et c'était Gandalf. Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. C'est quoi le secret de votre voix? Depuis tout à l'heure, je vous écoute, je ferme les yeux, je vous regarde, il y a quelque chose d'assez incroyable.
Ouais, ça marche, hein, ça marche bien.
Actuellement, je suis enroué, alors ma voix, je ne me la reconnais pas.
Oui, mais tout à l'heure, quand vous êtes assis, vous avez dit, c'était « Ah mon Dieu », l'expression que vous avez lancée, et là, il y avait tout le coffre.
Peut-être, ça revient, oui.
Refaites-moi le « Ah mon Dieu ».
Ah mon Dieu!
Ah oui, c'est vrai, tout de suite on entend.
Ça s'est placé tout de suite.
Donc il n'y a pas de secret.
Quand on joue, c'est autre chose.
Il n'y a pas de secret, Jean-Pierre.
Il faut jouer tout le temps. Il n'y a pas de secret, non?
Non, il n'y a pas de secret.
Le travail.
Le travail.
Alors, t'as compris?
Oui, bon, je sais. C'est pas facile. Hein.
C'est bête.
On poursuit avec un autre son, soyez attentifs.
Il n'a peut-être pas la légèreté nécessaire. Il n'a pas le champagne de ça. Mais tu vois, c'est allé de Robert Lamoureux à. Machin, un Piccoli actuellement, tout le monde a joué Guitry.
C'est vous en 2001, parlant de Michel Piccoli, qui à l'époque jouait la jalousie de Guitry, et vous n'êtes pas très tendre, hein, il manque de champagne. En fait, vous n'aimez pas qu'on vous emprunte Guitry.
Oh si, c'est à tout le monde, Guitry aussi, si. Moi, peut-être que je trouvais Piccoli pas très bon dans
Michel, Piccoli, Michel Piccoli.
Michel.
Non, mais c'était pas Michel qui jouait, ça explique tout. C'était
son frère. C'était Philippe Piccoli.
Qui est moins talentueux.
Ouais, franchement.
Moi, j'avais jamais vu Philippe. Il y a un
Philippe Piccoli.
Non, mais c'est vous qui avez dit Philippe.
Non, mais du coup, on l'invente.
Et Michel Piccoli qui a joué avec Françoise Zorin.
Oui, à l'origine de leur vie, non pas sexuelle, mais enfin, leur vie. Professionnel.
Et qui, dans les acteurs que vous avez pu fréquenter, vous considérez comme un monstre sacré? C'est important et c'est intéressant de demander
Robert
ça
Rich.
À vous.
Robert Rich.
Ah ouais.
Robert, oui.
Vous avez vu mon père?
Vous êtes allé le voir sur scène?
Robert, c'est un être qui m'a obligé. C'est-à-dire qu'il travaille avec une telle exigence que si on ne rentre pas dans son exigence, on est dépassé, on est foutu. Il faut rentrer dans son exigence, car son exigence est une exigence de loyauté vis-à-vis des rôles.
Vous l'avez vu
c'est
dans...
Un paroxysme, ah, c'est un paroxysme.
Vous l'avez vu dans Le Père de Florian Zeller?
Oui, bien sûr. Il est remarquable.
Ah,
il
oui.
est sublime.
Et s'il vous fallait citer Jean-Pierre?
Je ne parle pas de la pièce, je parle du rôle.
Ne répondez pas, il n'en sait rien. Il était au bar.
Et s'il vous fallait citer un acteur plus jeune, qui appartient à la jeune génération, sur qui vous miseriez ou qui vous regardez avec une acuité particulière?
Robert Hirsch, toujours.
Une tendresse.
Ouais.
Dans les jeunes?
Oui.
Je ne sais pas, je ne connais pas assez, non, je ne veux pas prendre parti.
D'accord, très bien. On a fait le tour du brouillon de culture.
Si j'ai le temps, j'ai une petite dernière.
Non.
Je te demande toujours, au cas où.
Question rhétorique.
Voilà.
Mais en même temps, vas-y.
Ouais, c'est
joyeux. Il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi qui sont excellents. Hein. Mais les noms ne
m'existent
pas.
Vous êtes sûr que ça existe?
La génération de 40 ans, de 50 ans, il y a des types formidables.
Les jeunes, c'est la génération de 40-50. Ah, bah oui, ah d'accord, je ne suis pas sûr que la question concernait les jeunes de 40-50.
C'est pas encore prouvé, il faut avoir les rôles.
Il faut grandir.
Il y a vraiment des acteurs de la quarantaine remarquables à l'heure actuelle.
Un petit dernier.
Je ne pas de nom, j'ai des trous de mémoire.
Non, mais d'accord.
Un petit dernier pour la route. Un son.
Oui.
Je voudrais m'endormir.
Ah.
Un jour.
Je connais cette voix-là.
À l'ombre de mes jeunes filles. La veille, j'aurais cueilli pour chacune un bouquet.
C'est vous, en 1975, dans une émission télé, à l'ombre de mes jeunes filles. C'est très élégant. Vous n'avez pas persévéré dans la chanson ?
Non, parce que j'avais la trouille dans les promotions. J'arrivais, j'avais la... Chanter devant un micro, pas de problème. Mais chanter devant un aéropage quelconque, pour mouvoir, il faut... Hein. Alors là, je me dégonflais complètement.
Alors que sur scène, vous êtes capable...
Je l'ai laissé tomber.
Vous n'avez peur de rien sur scène, vous n'avez pas peur du
public. Non, mais sur scène, vous êtes derrière un personnage. Mm-hmm. Quand vous chantez, ce n'est pas un personnage, c'est vous. Alors là, j'ai dit, qu'est-ce que je fous là de...
Très bon.
D'ailleurs, j'avais dit un jour à Beko, j'aurais voulu faire comme vous. Il m'a regardé, il fait, oh non, pas vous.
France Inter, Nagui, la bande originale.
On est déjà pratiquement à la fin de cette émission, dans cette bande originale spéciale consacrée à Jean-Pierre et à la rediffusion des extraits de l'émission lorsqu'il était venu en 2016. Jean-Pierre s'était prêté à l'époque à notre cascade de questions. La revoici. Questions courtes avec des réponses courtes. On commence par Leïla pour Jean-Pierre.
Jean, à quel âge avez-vous, selon vous, été le plus heureux ?
Honnêtement, je suis un homme heureux. Je n'ai pas, remarqué une date ou un âge précis. Je suis un homme heureux de vivre. Et je sais que ça va s'arrêter dans un délai relativement court maintenant. Mais je suis heureux de vivre. J'ai toujours été heureux de vivre. J'ai fait le métier que je devais faire. C'est considérable. J'ai rencontré les femmes que je devais rencontrer. C'est considérable. J'ai rencontré les hommes que je pouvais rencontrer ou que je devais rencontrer. C'est aussi considérable. Alors, l'impression d'être guidé par ma mère, d'abord, ça c'est certain, dans les premières années de ma vie. Mais j'ai toujours eu le sentiment d'une protection.
Éric Nolot.
Jean, la dernière pièce que vous voudriez jouer, une pièce de Dorin ou Cyrano de Bergerac? Vous devez choisir entre les deux, hélas.
Oh, je choisirais Cyrano. Pour ne pas l'encombrer.
Bien.
Elle.
Bien.
Oui. Daniel Morin.
J'ai pas de question, j'ai juste un petit cadeau pour vous, Jean. J'ai bien compris depuis tout à l'heure que vous aviez une attente.
Petit Papa Noël.
Je vais vous raconter l'histoire de Petit Papa Noël.
Oui, allons-y, on a le temps.
Non, on n'a pas le temps. Non, non, on n'a pas le temps.
Non, c'est dommage que ça vaut la peine.
Ah bon, oui,
c'était dans un film où il tournait deux rôles, lui et Kino. Ça a été un bide épouvantable. Le producteur s'arrachait les cheveux. Et puis il est sorti le disque Petit Papa Noël. Ça a été sa fortune.
Le producteur. Comme quoi.
Hein,
le marketing déjà
tout
à l'époque.
Est possible.
Bah, oui. Noémie Delattre.
Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase qu'on attribue à Sarah Bernard qui dit à propos du trac qu'il vient avec le talent?
C'est absurde.
Vous n'avez pas de trac?
Non, je trouve que c'est absurde. Le trac ne vient pas avec le talent. Le trac, il est là, puis c'est tout. C'est, vous avez du talent ou pas, mais c'est pas à cause du trac que vous réussissez.
Voici les excuses de Daniel Morin.
Absolument. Désolé pour tous les imitateurs qui nous écoutent. Désolé pour tous les fans d'Yves Montand. Désolé pour la dépouille d'Yves Montand. Désolé pour la direction de France Télévisions. Désolé pour la famille de Nagui. Vers 11h40, on a assisté à un naufrage. Le naufrage d'un mythe, on vérifie.
Et si bon.
Oh oui. De partir
n'importe où.
Oh, et la bicyclette.
Et vous serez tous d'accord avec moi, c'est une honte.
Jean-Pia, ça a été un honneur pour nous de vous accueillir.
Un honneur et un plaisir.
Un honneur et un plaisir, absolument. Et comme on fait souvent pour les artistes, on les applaudit une dernière fois. Jean-Pia, c'était une manière, notre manière de lui rendre hommage. Cette émission était certes décousue, mais c'était aussi une façon de réentendre sa voix, de réentendre ses propos et de lui dire à nouveau tout l'amour qu'on lui portait, qu'on lui porte et qu'on lui portera. Voilà pour cette bande originale spéciale Jean-Pia. Nous allons nous retrouver lundi avec Gaspard Ulliel, Céline Salette pour le film Un peuple et son roi. On vous propose de passer un bon week-end. Évidemment, toutes nos pensées vont à la famille et aux proches de Jean-Pierre. Bon week-end. Vous retrouvez tout de suite Philippe Bertrand pour les carnets de campagne.
Merci Nagui pour cet hommage et à lundi.